Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors, nous allons faire deux lectures et je rappelle le titre que nous avons déjà annoncé tout à l'heure, les festins de la grâce. Alors, c'est tout un programme au menu. Un festin, c'est fait pour se réjouir entre amis, en famille, avec, un repas tout à fait particulier. Alors, c'est ce que nous allons voir ensemble. Première lecture, je vous la propose dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Alors, nous allons voir ça. Éphésiens, chapitre 4, verset 32. C'est très bref. Et toujours dans l'esprit de la grâce, voilà ce que Paul nous laisse. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà ce que Paul écrivait il y a si longtemps, mais qui reste encore pleinement d'actualité pour nous, parce que celui qui n'a pas compris le pardon à donner aux autres, n'a pas compris qu'il a été pardonné par Jésus, par l'effet de sa grâce. Voilà le premier verset. Le deuxième, c'est dans le livre des Actes, et c'est surtout celui-ci que nous allons méditer ce matin. Actes chapitre 20 et le verset 24. Alors, il est dit ceci, toujours Paul qui écrit, qui nous laisse cela. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Et le verset et les paroles qui vont nous servir ce matin, le ministère que j'ai reçu, ma course avec joie d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ces quelques mots, j'aimerais leur donner une explication, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, ou si vous aimez mieux, d'annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. Voilà. Cette parole pourrait se résumer ainsi, et je crois que le monde chrétien sera certainement d'accord sur le sujet. C'est que c'est la plus merveilleuse de toutes les bonnes nouvelles. Il y a rarement de bonnes nouvelles dans notre monde, ça peut arriver, mais celle-ci, a un caractère exceptionnel, sublime, céleste, que jamais le monde n'a reçu et qui se refuse à connaître. Et pourtant, c'est une bonne nouvelle de la grâce. C'est la grâce qui est l'objet de cette réjouissance, comme Paul en parle pour lui-même. On pourrait peut-être ajouter que c'est l'inimaginable cadeau qui est envoyé du ciel aux hommes, la grâce, et qui parle de bienveillance, qui nous parle de pardon, qui nous parle de miséricorde. C'est à savoir où il y a des bénédictions pour les hommes, qui sont accordés sans attendre un retour intéressé, parce que Dieu les donne avec largesse. Il les donne avec tout ce que cela peut comporter, de la puissance et de la bienveillance de Dieu. On pourrait dire que c'est le plus beau et le plus grand de tous les cadeaux, de tous les dons qui soient. C'est ça la grâce de Dieu. Je crois que je serai certainement à court pour mettre une explication à la grâce de Dieu, parce que c'est pas seulement de le dire, mais ça se vit. Et quand on le vit profondément, on sait de quoi on parle. On sait de quoi il s'agit. Et je crois que être croyant est une chose. être né de nouveau, être converti à Jésus-Christ, eh bien nous faire entrer vraiment dans la dimension de cette grâce qui nous a été faite. Tout est grâce dans notre vie. Ce matin, je voudrais vous dire, si nous sommes là, c'est un effet de la grâce de Dieu. Nous pourrions être ailleurs, nous pourrions être absents, nous pourrions être retenus, nous pourrions être à mille et une choses. Mais ce qui fait que Dieu a animé notre volonté pour nous lever ce matin, eh bien c'est parce que justement, c'est que nous croyons à la grâce de Dieu. Si nous pouvons lire la Bible, si nous pouvons la comprendre, si nous pouvons avoir eh bien une maison qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ avec des frères et des sœurs, c'est encore une grâce. Et tout cela, c'est un don précieux, c'est une grâce considérable. Et nous voyons que la grâce, elle est libérée de tous les préjugés. Vous savez ce que c'est que les préjugés? C'est de juger avant sans connaître. C'est de juger à tort. Et dans ce sens, nous sommes véritablement, nous les hommes, partout le monde, des champions du préjugé. Et c'est de cela que nous voulons nous entretenir, entre autres, parce que cette grâce de Dieu, elle est libérée non seulement du préjugé, mais de toute servilité d'une loi ou de la loi, des principes qui restreignent les hommes dans ce qu'ils ont droit et ce qu'ils n'ont pas droit. Ça, c'était l'Ancien Testament, vous comprenez? Jésus n'est pas venu pour l'abolir, hein, la loi de Moïse. Mais il est venu pour l'accomplir. Il est venu pour y mettre la lumière. Il est venu pour y mettre de l'amour. Il est venu pour y mettre l'amour de Dieu qui éclaire la grâce. Elle existait déjà dans l'Ancien Testament du temps des Hébreux. Ça, c'est sûr. Parce que c'était le peuple élu, c'était le peuple chéri. C'était le peuple que Dieu aimait et qu'il aime encore. Mais nous nous apercevons que il y avait quelque chose qui retenait cette grâce dans des captivités, dans des prisons. C'était la servilité de la loi. Je mérite, je fais ceci, je fais cela. Alors Dieu, tu peux bien faire ceci et cela en ma faveur. Alors que tout cela, eh bien, c'est complètement anéanti. Et nous sommes des graciés. Demandez à un condamné à mort, lorsqu'il reçoit une lettre du président ou du roi et qui lui dit qu'il est gracié. Je peux vous dire qu'il faut qu'il y croie. Il faut d'abord qu'il croie à la grâce. Et nous sommes des hommes qui sommes appelés à croire à la grâce et à nous développer dans cette grâce. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dira à un moment donné, grâce sur grâce nous avons reçu. Et nous sommes là ce matin pour aller un peu plus loin. Enfin, c'est le travail d'un pasteur, hein. Parce que moi, j'ai pas forcément cette envie de voir le troupeau stagner. Maintenant, après, chacun naturellement prend ou ne prend pas. Mais c'est d'avancer dans la vie spirituelle, c'est de grandir dans la vie spirituelle. Et Paul a bien cette parole, il dira, mais grâce sur grâce. C'est dans cette dimension que nous sommes appelés finalement à rentrer. Et graciés non pas par nos œuvres, ou par nos mérites, ou par les privilèges supposés que nous pensons pouvoir offrir à Dieu, en disant, bien voilà, comme à la manière de Jacob, si tu me bénis, eh bien je ferai ceci, je ferai cela. Si tu me bénis pas, moi j'abandonne, hein, je marche plus. Hein. Ça, c'est très mesquin comme raisonnement, c'est très étroit naturellement. Et en rien, cette grâce n'a rien à voir avec nos efforts, avec... finalement, eh bien, tout ce que nous pourrions, eh bien, la déployer pour essayer de séduire Dieu d'une façon ou d'une autre. La grâce, je dirais tout simplement, c'est le fruit de l'amour. C'est parce que j'aime, tout simplement. Et je crois que c'est déjà une petite approche que j'ai voulu donner de ce que peut représenter, de ce que peut être la grâce. C'est le fruit de la bonté de Dieu et de sa générosité, tout simplement. Sans rien attendre d'autre. Dans la Bible, la grâce est présentée, vous le remarquerez, sous divers aspects et souvent dans une relation joyeuse. Voilà, c'est ce qui change la physionomie d'une église en quelque sorte. Hein. Soit elle est triste, soit elle est joyeuse, elle est gaie. Et pourquoi serait-elle justement joyeuse et pleine d'entrain et d'enthousiasme et d'élan? C'est parce qu'elle a compris le sens de la grâce. Autrement, bah, elle est triste, c'est toujours qu'est-ce qu'il va m'arriver? Qu'est-ce qu'il va nous arriver? Qu'est-ce que je peux attendre? Qu'est-ce que le ciel me réserve? Bon, c'est un raisonnement, hein. Mais vous remarquerez avec moi dans les textes qui vont suivre, c'est qu'elle est souvent présentée dans une relation donc joyeuse autour d'un repas. Et ça, c'est pourquoi j'ai titré tout simplement les repas ou les festins de la grâce. Donc autour d'un repas auquel tous les hommes sont conviés s'ils le veulent. Si je veux rentrer dans la grâce, j'y rentre. Si je veux demeurer dans la grâce, je reste. Et je demeure, et je vais l'amplifier cette grâce. Autrement, si je veux m'affranchir de tout cela, et puis vivre selon peut-être mes pensées, mes rêveries, ou des choses comme ça, bien, naturellement, c'est au bon vouloir de chacun, mais elle est offerte en tous les cas. Elle est là, elle est abondante, elle est comme un torrent, elle est comme un fleuve, elle est comme un océan qui déborde la grâce de Dieu. D'ailleurs, nous le chantons dans certains cantiques, si vous vous en souvenez. Donc, les festins de la grâce. Vous vous souvenez du repas de Lot ? Lorsqu'il est arrivé pourtant dans une situation quand même qui n'était certainement pas dans le contexte de la volonté de Dieu quand il est arrivé à Sodome et Gomorre et qu'il a offert aux anges un repas. Souvenez, rentrez chez moi et vous allez prendre quelque chose. C'était des anges, il pensait que c'était des hommes, mais c'était des gens, des anges. Et sans le savoir, c'était en quelque sorte, eh bien, quelque chose que Dieu lui offrait pour lui-même, pour sa famille. Parce qu'il allait arriver quelque chose de catastrophique sur Sodome et Gomorre que nous connaissons, dans Genèse chapitre 19. Mais à travers ce repas, il y avait déjà tout un message de grâce. C'était la bonne nouvelle annoncée par les anges à Lot pour échapper au jugement. Eh bien, la grâce, c'est échapper au jugement. C'est ça, la grâce. Est-ce que nous avons besoin d'une démonstration supplémentaire? La grâce qui nous a été faite, c'est pour échapper justement à la perdition et au jugement de Dieu. C'est une illustration, naturellement. Est-ce que vous vous souvenez de Joseph? Cette pathétique histoire de Joseph, tellement troublante et tellement bouleversante, de Joseph en Égypte, qui va accueillir ses frères, après les avoir un petit peu testés, voir où ils en étaient rendus, parce qu'ils sont venus aussi dans une situation de pénurie, de famine, mais Joseph les a reconnus, mais eux n'ont pas reconnu Joseph. Et qu'est-ce que va faire Joseph? Eh bien, il va les réunir autour d'un repas aussi, pour nous montrer que le repas, le festin de la grâce, c'est le pardon de Dieu. Le jugement, ça y est, mis de côté. Le pardon de Dieu, eh bien, c'est la grâce qui nous est donnée. Et je crois que c'est certainement un des messages les plus beaux de l'Évangile, un festin, le festin de Joseph. Vous savez comment ça s'est passé? Il a pleuré. Joseph a pleuré. Il a pleuré pour ses frères qui lui avaient fait tant de mal. Ça lui a coûté quand même 20 ans de prison, hein, c'est pas une paille. Et là, ce repas, c'était autour de cette table, avec les larmes, avec une émotion qu'il ne pouvait contenir, en dressant cette table. Eh bien, c'était la grâce de Dieu qu'il offrait à ses frères. Tout simplement, son pardon. Et puis, dans le psaume 23, « Tu dresses devant moi une table », on en reparlera tout à l'heure. « Et ma coupe déborde ». C'est la joie de la présence de Dieu. Je ne sais pas dans quelle disposition nous pouvons venir à un culte, ou même à une toute autre réunion d'un autre caractère. Mais en tous les cas, je pense que nous avons, par-delà nos fardeaux et nos problèmes, par-delà les soucis que vous avez eus cette semaine, venir justement autour de cette table, eh bien, de pouvoir le faire avec cette conscience que nous sommes dans la grâce de Dieu. Ouais. On peut être chargé par diverses difficultés, peut-être même culpabilisé, mais moi je voudrais vous dire que Dieu nous offre à chacun sa grâce. C'est un renouvellement de grâce que nous sommes venus chercher ce matin. C'est pas pour voir le pasteur, c'est pas pour simplement nous rencontrer, bien que ça nous fasse plaisir de nous rencontrer dans la communion fraternelle, mais ce matin, la démarche que nous avons faite, c'est parce que nous venons à la table de la grâce. Tu dresses devant moi une table et ma coupe déborde. Vous voulez voir vos soucis disparaître? Vous voulez voir un renouvellement, un nouveau printemps dans votre vie, un rafraîchissement? Eh bien, approchez-vous de la table, parce que c'est une table de bénédiction, une table de consolation, une table de délivrance. C'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui le dit. Vous vous souvenez aussi de David, qui va avoir véritablement à cœur par l'Esprit de Dieu de faire grâce à un de ses ennemis. Enfin, ennemi par procuration, nous pourrions dire. Parce que il s'agit du fils de Jonathan, Méphibosheth. Et vous savez ce qu'il va lui dire? Viens maintenant, je vais te faire du bien. L'Éternel m'a mis à cœur de te faire du bien. Et vous savez ce qu'il lui dit, pour bien illustrer la grâce et le festin de la grâce? Il va lui dire, maintenant tu mangeras tous les jours à ma table, dans mon palais. Eh bien, permettez-moi de dire que la table est dressée tous les jours. Pour chacun d'entre nous, que ce soit ici ou que ce soit dans nos maisons ou partout ailleurs, si vous voulez en profiter de la grâce de Dieu, elle est dressée pour vous ce matin, elle est dressée pour cet après-midi, elle est dressée tous les jours. Parce que nous sommes tous des Méphibosheth, hein, quelque part. Hein. L'Éternel a décidé, m'a mis à cœur, dit David, de te faire du bien. C'était surtout en réponse au mal que David avait reçu de toute cette dynastie de Saül. Ben, vous connaissez l'histoire naturellement. Quand on lit Ésaïe, par exemple, pour nourrir un peu notre pensée, qu'est-ce qu'il nous est dit à un moment donné? C'est proclamé dans l'Ancien Testament comme la déclaration universelle du salut pour tous les peuples. Écoutez, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vieux vin, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. L'évangile avant l'évangile, la bonne nouvelle. Et on comprend que Paul dira l'évangile de la grâce de Dieu. Et il était déjà présent à l'état peut-être embryonnaire dans l'Ancien Testament, mais il éclate aujourd'hui. Et je suis toujours assez attristé de voir des enfants de Dieu qui restent en deçà de la grâce. Ouais. Qui restent toujours avec leur combat, leur lutte, hein, qui sont toujours en train d'écouter le cliquetis de leurs armes. Ils se battent avec eux-mêmes, ils sont en dualité, etc., etc. Mais nous sommes dans la grâce, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous a délivrés, oui ou non. C'est à nous de le saisir par la grâce, par la foi, pardon. Et quand Paul dit, mais l'évangile, je vous ai annoncé l'évangile de la grâce de Dieu, mais c'est ça. C'est ça. J'en suis vraiment intimement et persuadé que c'est ça. Ah oui. C'est véritablement la réalité du ministère nouveau de la Nouvelle Alliance. Voilà le psaume que nous avons lu, pas le psaume, mais Ésaïe 25 que je viens de lire, eh bien c'est tout simplement la grâce comme l'espérance de la félicité éternelle pour tous les hommes. Ça n'aurait pu qu'être le peuple d'Israël qui aurait pu être sauvé. Et nous les païens, nous les gentils comme on dit, eh bien nous pourrions être complètement évincés. Mais Dieu dans son amour infini, c'est pour tous les hommes, parce que tous les hommes font partie de sa création et il veut sauver tous les hommes, c'est une grâce, tout simplement. Si je vous parle maintenant de quelques festins de grâce, quelques paraboles festives, dirais-je, et gracieuses de Jésus, alors nous allons voir un peu ce qu'il en est. Matthieu, par exemple, Lévi, vous savez, celui qui a écrit l'évangile, le péager, l'homme publicain, etc. Vous savez ce qu'il va faire? Il va inviter ses amis, y compris Jésus et ses disciples, à célébrer son appel à une vie nouvelle. Et il va le faire autour d'une table, un festin. Voilà, j'ai rencontré mon Sauveur, j'ai rencontré mon Seigneur. C'est autour d'une table, c'est la grâce. Qu'est-ce que vous en pensez du Fils prodigue, qui est accueilli tout simplement par un festin marquant son retour et la communion avec sa famille, avec son Père retrouvé? C'est encore au cours d'une trappe. Tu es le veau gras, réjouissons-nous, car celui qui était mort, eh bien maintenant, est revenu à la vie, tout simplement. C'est clair tout ça, ce sont des paroles que nous avons dans la Bible. Le festin de la grâce. Il aurait pu être maudit, il aurait pu être puni, il aurait pu être rejeté par son père. Avec ce qu'il avait fait, il avait dilapidé, toute la fortune. Ben oui, mais non. C'est autour d'une table, tout simplement, les festins de la grâce. Et puis, qu'est-ce que nous pouvons penser de cette femme, au surcroît prostituée, courtisane, qui va faire irruption dans la maison de Simon le pharisien? Elle pleure sur ses péchés, mais pas des larmes de crocodile, de véritables pleurs de repentance. Et elle va rentrer dans cette maison de Simon, et elle va se mettre aux pieds de Jésus, qui est à table aussi, dans cette maison. Et c'est autour de ce festin qui est donné par un supposé peut-être soupçonneux de voir en Jésus un imposteur, Simon en tous les cas, avec sa réflexion qu'il fera à un moment donné. Et cette femme, elle rentre dans le repas. Elle vient et elle va pleurer au pied de Jésus parce qu'elle est animée par cette grâce qui est la force de l'amour, qui pardonne. Et Jésus le dira, elle a été beaucoup pardonnée parce qu'elle a beaucoup aimé. C'est la grâce encore. Vous savez, ça devrait transformer nos vies tout ça. Transformer la mienne de plus en plus. Les festins des noces de l'agneau, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, c'est aussi la grâce. Mais ça sera pour... Et puis, je ne veux pas oublier, parce que c'est important, c'est les festins, finalement, de la Sainte Cène. C'est déjà l'anticipation des noces de l'agneau, la Sainte Cène. Quand Jésus... Parce que ça aurait pu être autrement, ça aurait pu être sous une autre forme, finalement, les adieux à ses disciples. Mais ça s'est passé autour d'un repas. Et, tout simplement, où là, eh bien, ils ont pris tout simplement la coupe. Et puis, c'était emblématique de ce que Jésus allait faire, le repas de la scène, qui illustre la grâce dans le sacrifice, la victime expiatoire qu'est Jésus, tout simplement. Le repas des disciples d'Emmaüs, ça s'est passé, ça s'est terminé comment? Après une période d'aveuglement, de méconnaissance, ne pouvant pas être empêchés de voir Jésus, de reconnaître Jésus qui marche à côté d'eux, eh bien, nous nous apercevons que ce repas de la grâce, c'est l'illumination des cœurs. À un moment donné, il nous est dit que leurs yeux s'ouvrirent quand Jésus a rompu le pain, et là, ils l'ont reconnu. C'est le repas de la grâce. C'est le festin aussi de la grâce, tout simplement. Puis, il y a bien d'autres choses sur lesquelles je passe, et qui sont certainement très évidentes pour nous montrer les festins de la grâce qui nous est offerte, les festins de la grâce de Dieu. Maintenant, peut-être une explication. Qu'est-ce que veut dire grâce? C'est un mot qui est galvaudé, parce qu'on l'a mis un petit peu à tous les sens, comme tout le reste de notre vocabulaire, qui à l'origine peut avoir finalement un sens profond spirituel, mais que nous avons, que les hommes ont souvent tourné en dérision ou approprié à des choses qui n'ont plus rien à voir, tout simplement. Alors qu'est-ce que ça veut dire grâce? Rendre grâce, c'est se rappeler, écoutez bien, c'est se rappeler que toute bonne chose reçue nous viennent de la bonté de Dieu. Vous allez me dire, c'est une définition très simpliste, mais c'est pourtant celle-là. C'est me souvenir. Et ce matin, et je ne vous fais pas de reproche, mais ce matin, et vous m'avez souvent entendu, nous devrions être à nous bousculer pour dire merci au Seigneur dans nos moments de culte. Je ne peux pas le faire à votre place, mais c'est vrai. Et je crois que nous avons besoin de faire des progrès dans la grâce de Dieu. Parce que ça nous ouvre la bouche. Ça nous fait éclater le cœur. Et là, ça devient facile, parce que la motivation, c'est tout simplement notre amour pour le Seigneur. Alors, on n'a pas toujours envie. J'en conçois. On peut être avoir eu une semaine difficile. On peut être tourmenté par ceci et cela. On peut être mal dans son corps. Quelquefois, tourmenté au niveau de notre vie intérieure. Mais pourtant, est-ce que j'ai reçu ou je n'ai pas reçu? Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras, en contemplant, combien le nombre en est grand. Vous connaissez la formule, hein? Eh oui. Et je crois que nous avons besoin de demander, Seigneur, donne-moi de toucher encore plus près ta grâce, de vivre ta grâce. Donc c'est se rappeler, c'est se souvenir, c'est la mémoire du cœur, que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, notre travail, si nous en avons un, notre famille, nos amis, les petites comme dans les grandes choses, c'est encore une grâce que Dieu nous a donnée pour nous accompagner dans cette vie. Merci Seigneur pour tout cela. Et si j'ai besoin d'une triste comparaison, je regarde tous ceux qui n'ont pas ce que j'ai. Et là, ça va remettre les choses peut-être un petit peu en place. Ouais. Et qui nous viennent de cette bonté de Dieu, c'est-à-dire que c'est immérité. Est-ce que nous croyons encore que ce que nous sommes et ce que nous avons, eh bien, nous ne le méritons pas? Alors ça nous fait fondre à ce moment-là, si vraiment nous le connaissons, si nous approfondissons la chose. Nous allons voir brièvement les mots dérivés de la grâce, les mots que nous employons quelquefois ou que nous connaissons tout simplement. Gratifier, ça vient du mot grâce, gratifier. Gratifier, c'est tout simplement, eh bien, complimenter ou apporter une reconnaissance quelque part. Congratuler, les congratulations. Lorsque quelqu'un réussit, alors on le congratule, ça vient du mot grâce. Et puis, vous allez voir, il y a le mot gracieux. Il y a son contraire, naturellement. Mais le mot gracieux, c'est digne, c'est quelque chose qui est digne et quelque chose qui est élégant. Vous voyez? Il y a une élégance. Il y a quelque chose qui se distingue de la vulgarité et de la grossièreté. Ça n'a rien à voir avec la grossièreté, au contraire. C'est le jour et la nuit, c'est le ciel et la terre. C'est le feu et l'eau, en quelque sorte. Donc l'élégance, la gratification, c'est un agrément. On agrée, on donne quelque chose. Voilà. Tout ça vient du mot grâce. Agrément, ça veut dire enrichir, donner plus, augmenter en quelque sorte, en valeur. Oui, un acte de grâce, c'est être gracié, ce que nous sommes. Dieu nous a fait un acte de grâce en nous pardonnant. Gratis, rien à payer, c'est l'évangile. Voilà, vous pouvez partir, vous n'avez rien à payer, tout simplement. Il n'y a même pas de crédit, vous n'aurez pas de dette. Rien à faire, puisque ce que vous avez reçu, ça a été donné de toute façon. Alors on va quand même pas faire payer ce que nous avons reçu. Gratis. Un état de grâce. Nous sommes en état de grâce. Alors peut-être en disant, mais comment le Seigneur me supporte-t-il? Parce que nous sommes dans sa grâce, tout simplement. Mes frères et sœurs qui vous culpabilisez, vous allez enfin accepter que Dieu vous pardonne. Et vous allez vous pardonner vous-même, parce que vous êtes dans un état de grâce. Je dois vous le rappeler. Et puis, état de grâce, c'est être considéré comme sauvé, comme libéré. Et voici ses contraires au mot grâce. C'est tomber en disgrâce. J'étais dans une position, mais j'ai été déchu. La disgrâce, voilà. Ayant perdu la faveur, on pourrait peut-être résumer de cette manière. Vous connaissez cette expression latine, persona non grata. Connaissez, hein? Quelquefois, il y a des gens, voilà, ils sont persona non grata en France. Parce que ce sont des terroristes, parce que ce sont des gens qui ont été finalement, eh bien là, odieux avec une nation, qui ont eu un comportement où, voilà, ils sont persona non grata. Alors, quant à la frontière, on les repère et je peux vous dire qu'ils rentrent pas. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, ils n'ont pas la grâce, tout simplement. Personne indésirable, en quelque sorte. Et puis, le mot grâce contient l'essence même de l'évangile. Écoutez bien, j'ai trouvé une formule pour cela, parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi à la chose. Oui, le mot grâce contient l'essence même de l'évangile. Et on comprend quand Paul dira « Je me réjouis du ministère que Dieu m'a donné, je suis dans la joie de l'évangile, de la grâce de Dieu. » Et ça pourrait se résumer de cette manière, c'est comme une goutte d'eau qui contient l'image et la lumière du soleil qui s'y reflète. Alors je ne sais pas si véritablement nous saisissons bien cela. Une goutte d'eau. C'est pas grand chose. Mais cette goutte d'eau, elle contient le soleil entièrement et sa lumière. Parce que le soleil se reflète dedans. Nous devrions être des gouttes d'eau qui reflétons la grâce de Dieu autour de nous, mes frères et sœurs. Et là, il va falloir faire travailler nos zygomatiques. Vous savez, c'est ces muscles qui amènent le sourire et la joie et tout ça autour de nous-mêmes quand nous n'avons pas envie de rire. Où nous n'avons pas envie d'être souriants. Mais regardez ça, c'est le fruit du Saint-Esprit. Il nous est dit la joie par le Saint-Esprit. Paul, dans la prison, avec Silas, chantait des cantiques alors qu'ils avaient été malmenés, qu'ils étaient peut-être prêts à être mis à mort, eh bien, ils chantaient les louanges de la gloire de Dieu. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. C'est important. Dans une société à la dérive, permettez-moi l'expression, sans repère, ni aucune valeur éternelle et spirituelle, il n'y a pas, et je dois l'avouer, il n'y a pas d'autre mot plus salutaire, libérateur et apaisant que le mot grâce. Le mot qui revient très souvent, c'est le mot loi dans notre société. Vous n'avez pas entendu parler de la loi, là? Elle nous est rappelée pour la circulation, elle nous est rappelée pour l'application de l'imposition, elle nous est rappelée dans tous les domaines. C'est le mot loi, 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 c'est un couperet. Mais le mot grâce, on l'entend pas souvent, hein, dans notre monde. Ouais, il n'y a rien de plus salutaire et d'apaisant et de pouvoir jeter l'encre de l'évangile de la grâce de Dieu, comme le livre des Hébreux nous parle. Oui, l'encre de l'espérance. Dans cet évangile de la grâce de Dieu parmi les hommes. Et c'est bien la vocation, c'est bien le rôle et le lieu de festin dans lequel nous pouvons nous réjouir et nous devons réjouir d'autres, eh bien, ça incombe à l'Église. Et s'il n'y a pas ça dans l'Église, où va-t-on le trouver? Où va-t-on le trouver? Parce que c'est vraiment le rôle de l'Église. Non pas de juger, mais d'offrir et d'accueillir, de donner espoir à tous les laissés pour compte de la vie. Moi, je m'attache à mon ministère, qui est celui de prêcher l'évangile. Je ne suis pas un chanteur, un musicien, je ne sais pas faire grand-chose. Mais en tous les cas, je sais qu'il y a une chose que Dieu m'a demandé, et je voudrais l'être jusqu'à la fin de mes jours, c'est de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Ça, j'en suis convaincu, hein, et de plus en plus. Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui sauront faire des choses que je ne sais pas faire, et je peux les admirer, c'est formidable. Mais en tous les cas, une chose que Dieu m'a demandé, parle et ne te tais point. Alors que Dieu me donne tout ce qui m'est nécessaire pour cela, mais de pouvoir dire aux gens, et non pas les enfermer dans une prison de restrictions et tout ça, parce que c'est pour la liberté, vous vous souvenez, on en a parlé dernièrement, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et ça, c'est important de le savoir. Et l'évangile que je prêche, c'est un évangile libérateur qui apaise, qui console et qui amène les gens à découvrir finalement cette dimension extraordinaire que Dieu nous offre. Et c'est véritablement l'association que nous avons dans cette Église. Et c'est là où nous devons véritablement porter l'essentiel de notre ministère et de notre service pour le Seigneur. Peut-être d'autres feront autrement, je ne les juge pas, ça ne me regarde pas. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous sommes associés les uns et les autres pour porter le message. À la manière et de la façon dont Dieu le veut, avec les moyens qu'il a donnés à chacun, les aptitudes et les possibilités qu'il a données à chacun. Mais ça, c'est quand même quelque chose. Pour que les gens qui rentrent dans une église disent « Je me sens bien ». Moi, je sais que la première fois que j'ai entendu le message de l'Évangile et dans les temps de ma conversion, véritablement, c'était quelque chose de merveilleux. Je m'en souviens encore, hein, ça fait plus de 43 ans maintenant. Et je me dis, mais Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire, ta présence, d'entendre des chrétiens chanter de tout leur cœur, des chrétiens prier, des chrétiens louer le Seigneur, des chrétiens qui étaient réunis pour dans des petites réunions de semaine, là, où il n'y avait peut-être pas forcément grand monde, mais en tous les cas, moi je peux dire que j'étais là, et c'était vraiment la plus grande joie que je n'ai jamais connue. Et je veux garder encore cette fraîcheur, encore aujourd'hui. Comme David disait, montons à la maison de l'Éternel. Et c'était certainement pas pour se lamenter, mais pour entendre une bonne nouvelle de la grâce. Vous savez, Jésus nous dit, il l'a dit à ses disciples hier au moment de la multiplication des pains. Et comme aujourd'hui nous sommes, eh bien, en quelque part, quelque sorte, eh bien, à un festin de la grâce, et en église, Jésus dira à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Vous savez, vous connaissez l'histoire, hein? Donnez-leur vous-même à manger. Eh bien, ce que nous avons à donner à manger, c'est un message de grâce, pas un message de restriction. Malheureusement, trop de gens, peut-être, qui avaient des attitudes ou qui avaient des aspirations à venir, à entendre le message de l'Évangile, on les a placés sous une loi. Je me dis, c'est vraiment méconnaître. Eh bien, les sentiments de Dieu et le désir et la destinée que Dieu réserve à ses hommes et ses femmes. On ne parle pas de loi, on parle de la grâce de Dieu. Et le Seigneur fera le reste, parce qu'il y a bien des choses à désencombrer dans les vies et dans les âmes. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donnez-leur vous-même à manger, à commencer par la parole. Ça, c'est notre mission. Alors, une question d'actualité, mais où en est l'Église aujourd'hui? Où en est l'Église? Sa responsabilité, son application pratique à annoncer, à expliquer à tous ce qu'est la grâce de Dieu. Que le monde peut-il apprendre de Dieu ou sur Dieu en observant les disciples de Jésus? Qu'est-ce qu'il peut apprendre? Eh bien, il y a cette parole que nous avons dans l'évangile de Jean qui est assez révélatrice. Je vous laisse simplement le texte, c'est chapitre 13 et au verset 35. Qu'est-ce que l'Église peut apprendre? Eh bien, voici ce qu'il nous est dit au verset 35 que je retrouve. Voilà. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà ce que le monde peut apprendre de l'Église. Si nous avons de l'amour, et l'amour, je l'ai dit tout à l'heure, est véritablement, eh bien, l'expression et s'exprime à travers cette grâce que nous devons apporter. Est-ce que l'Église ou l'Église renvoie-t-elle l'image d'une communauté où ceux qui y vivent expriment vraiment, réellement la joie qui prouve et qui procure tout simplement l'assurance de leur pardon, l'état d'être sauvé, la sérénité d'être au Seigneur? Est-ce que l'Église le montre? Je sais, je vous l'ai dit et je vous complimente pour ça. Il y a une réputation quand les gens viennent. On m'a dit plusieurs fois que l'Église était accueillante. Et je vous encourage à ce qu'elle soit encore plus accueillante. Une chose. Mais je voudrais aussi vous exhorter, mes frères et sœurs, c'est que l'Église soit encore plus joyeuse qu'elle ne l'est. Elle l'est. Elle l'est. Parce que quand on commence quelquefois les réunions, il y a des bruits par ici, par là, des conversations. Alors écoutez, moi je préfère qu'il y ait du bruit dans l'église parce que c'est le signe de la vie, qu'un silence plombé où là on croirait rentrer dans un tombeau. Non mais, on n'est pas dans un cimetière. Et si quelquefois, bon, on se laisse à... Voilà, peut-être à exprimer notre joie, quelques rires et tout ça, mais il n'y a rien de mal, mes frères et sœurs. On n'est quand même pas dans le temple de Jérusalem où Jésus est venu pour chasser les vendeurs et tout ça. Hein. On n'en est pas à ce point-là. Mais qu'il y ait de la vie dans l'Église, qu'il y ait de la joie, Ça, c'est important. C'est quelque chose d'important. Je vais vous raconter une histoire. La grâce, c'est la joie et le bonheur d'être heureux. Vous allez me dire, c'est un pléonasme. Mais c'est ça, la grâce de Dieu. Un jour à l'église, pendant le culte, peut-être comme ce matin, il y avait un petit garçon qui se tournait en souriant à tout le monde. C'est mignon. Voilà. Peut-être avait-il 6-7 ans, il regardait de tous les côtés, et puis il souriait à tout le monde, comme ça, dans son innocence, dans tout ce qu'il peut y avoir de beau chez un enfant. Et il souriait, donc, et il ne faisait aucun bruit. Il ne s'agitait pas. Il ne donnait pas de coups de pied dans les chaises. Ça peut arriver, hein. Il ne déchirait pas les livres de cantiques qui étaient autour de lui. Non, non, pas du tout, hein. Il ne fouillait pas dans le sac de sa maman. Complètement à l'envers, vous comprenez? Non, non, il était gentil, il souriait, tout simplement un sourire comme un enfant peut en avoir. Il souriait simplement. Et tout à coup, sa mère l'a secoué, elle l'a vraiment bousculé, vivement en lui disant « Arrête de sourire, tu es à l'église !» Wow. Alors, c'est sûr que, bon, voilà, c'était la raison de la maman. Et d'une manière péremptoire, elle lui a dit « Arrête, hein, arrête de sourire, tiens-toi tranquille !» Et elle lui donne une gifle en même temps, pour qu'il se tienne tranquille. C'est assez expéditif, ça peut guérir, ça peut, enfin voilà, ça peut faire quelque chose, hein, ça peut avoir des résultats. Mais peut-être pas dans le sens où on le pense. Donc il a reçu une tape. Alors, surpris l'enfant, il s'est mis à pleurer. Et là, il a fait du bruit. Et sa mère de lui répondre tout simplement « Bon, ben je préfère ça !» Wow, c'est quand même assez curieux hein, comme réaction. Ben, je préfère ça. Et elle est retournée à ses prières avec le gamin qui pleurait à côté d'elle, etc. Bon, voilà, vous devinez un petit peu la scène, tout simplement. C'est une illustration, frères et sœurs, d'une tragédie au cœur d'une église, au cœur de l'église, pour un monde en larmes. Parce que le monde autour de nous, il pleure. Cet enfant, il ne faisait que sourire. Il n'y a pas de mal à sourire. C'est préférable encore que le reste. Et un enfant qui croyait en un Dieu heureux. Vous y croyez en un Dieu heureux? Moi, je crois que Dieu est heureux, hein. Ah ouais? Il y a plus de bonheur dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Alors, il n'y a pas seulement les anges, hein. Mais la joie de Dieu, imaginez-vous, hein. Donc, il croyait en un Dieu heureux. Un Dieu qui sourit. Pas un Dieu triste, comme vous savez, comme on voit sur les statues de marbre, là, le Père. Il est figé, il est de marbre, il ne bouge pas, etc., etc. Voilà, tout simplement. C'était tout simplement l'innocence et la naïveté d'un petit enfant étouffé par la tradition du silence. La sonalité d'un lieu empesé de vide. Voilà, on avait fait, c'était sous vide. Comme ça, il n'y a pas de microbes, il n'y a rien du tout. La pesanteur suffocante du conformisme que nous pouvons trouver dans certaines églises. On rentre, ça fait un drôle d'effet, hein. La gravité tout simplement du masque du conformisme dans une église, on ne bouge pas, on est statufié, on ne dit rien, on ne sourit pas. Voilà. Et si vous chantez, vous chantez du bout des lèvres parce que ça fait trop de bruit. Je suis osé ce matin, mais on a peut-être quelquefois besoin de se remettre en cause pour aller plus loin. Vraiment, j'ai eu à cœur ce message. Et je ne juge pas, hein. Mais on veut rentrer dans une nouvelle dimension qui nous rapproche de la grâce de Dieu et d'aller encore plus loin. Alors, c'était peut-être pour l'enfant et ça lui restera peut-être toute sa vie lorsqu'il deviendra grand et s'il devient un jour chrétien. Interdit de sourire et interdit d'être heureux. Et il y a encore beaucoup malheureusement de chrétiens qui se donnent cette interdiction d'être heureux dans la vie. Ben moi je vous dis que Dieu veut que vous soyez heureux. Je suis désolé de vous le dire. Je suis navré de vous le dire. Mais le Seigneur veut que vous soyez heureux. Est-ce que vous voulez être heureux? Ouais, c'est formidable. Eh oui, c'est quelque chose. Je suis content, hein. Vraiment, je suis content. Voilà la vraie nature de la grâce, c'est de croire que Dieu se réjouit et que Dieu sourit. Un Dieu pétulant d'allégresse, de joie et de bonheur d'être, à partager, sans modération naturellement, avec ses enfants dans sa maison. Soyons heureux, soyons joyeux, exprimons la grâce qui nous a été faite, et c'est pas défendu. Moi, je vous arrêterai si je vous vois marcher au plafond, marcher autour des murs ou vous mettre par terre, ça je vais vous arrêter. Mais il y a des expressions, on est quand même loin de cela, frères et sœurs, hein. Parce qu'il y a des joies qui sont saines et inspirées par le Saint-Esprit. Et nous devons et nous nous faisons du bien. Nous venons à un culte, j'ai trop entendu et j'entends encore trop malheureusement des gens qui me téléphonent et qui me disent « Alain, je vais au culte en me traînant parce que quand j'en ressors, j'y vais pour me faire du bien et quand j'en ressors, je suis cassé par ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. » Eh ben, ça ne doit pas être comme ça et ça ne sera pas avec moi en tous les cas comme ça. Trop souvent, malheureusement. Ah, c'est terrible. Écoutez, il y a cette belle parole de Sophonie. Sophonie, vous connaissez? Vous connaissez bien, naturellement. Hein? Au chapitre 3, et au verset 14 et 15, et le verset 17. « Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël. L'Éternel est au milieu de toi. » L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Mais pour que nous ayons le temps de parler et le temps de nous exprimer, lui va se taire pour que nous ayons le temps de pouvoir lui exprimer tout ce que nous avons reçu de sa part. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Merci Seigneur de ce que tu as écrit des paroles comme ça dans la Bible. Ça va ? Attendez, c'est pas fini, parce que quand je dis que c'est fini, j'ai du mal à m'arrêter. Eh oui. Alors, c'est quelque chose. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Ce que nous avons besoin de comprendre, que je retrouve un petit peu, parce que ce que nous avons besoin de vivre, c'est de vivre quelque chose qui va nous amener à refléter, à célébrer notre joie dans l'espérance du ciel, parce que nous sommes déjà heureux d'être sur la terre, parce que Dieu nous bénit sur cette terre, mais nous avons encore une autre destination, hein. Et ça, ça devrait être encore beaucoup plus grand et beaucoup plus fort. N'oublions jamais que l'Église de Christ est un havre d'accueil et de grâce pour un monde en disgrâce. Eh oui, c'est ce qui nous a touchés, c'est ce qui nous a amenés au pied du Seigneur, de toute façon. Le monde religieux n'a pas su offrir ou n'a su offrir que des sources alternatives à la grâce, telles que le légalisme, telles que le moralisme, et d'autres encore, d'autres systèmes illusoires, en croyant que plus l'effort humain est visible et strict, plus nous sommes spirituels. Et moi, je me mets en faux par rapport à ça, c'est pas ça ce qui va faire que nous soyons spirituels. Et on l'a enseigné dans nos milieux, on l'a enseigné dans les religions chrétiennes traditionnelles, on l'a enseigné dans nos religions protestantes, on l'a enseigné dans nos religions évangéliques. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pas parce que notre démarche, notre dévotion, notre piété est coincée dans des choses strictes et des choses d'un système visible que nous serons plus spirituels. Non, c'est la vie de l'esprit en nous qui va s'exprimer. Et ça, c'est autre chose. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui m'adorent en esprit, en vérité. Et pas avec une contingence, un embrigadement, ou être régimenté dans toutes sortes de choses. Il faut que cela nous amène, eh bien, à changer d'attitude, mes frères et sœurs. Heureux d'être chrétien. Heureux de vivre dans la grâce. C'est ça. Parce que si nous pensons cela, c'est abaisser la vision de la grâce divine, parce que la solution au péché n'est pas d'imposer un code de comportement moral ou un code rituel de dévotion, et etc., mais avant tout de connaître Dieu. On l'a lu mercredi soir. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul véritable vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la vie, c'est pas la mort. Jésus-Christ, c'est la grâce et c'est la vérité, comme nous dit le prologue de Jean dans son évangile. car la grâce nous apprend que Dieu aime en raison de ce qu'il est par nature et non en raison de ce que nous sommes, nous. Vous voulez que je vous redise ça? Ça, c'est fondamental. C'est essentiel dans le message de la grâce, de l'évangile de la grâce, que Dieu aime en raison de ce qu'il est par nature, et Dieu est amour, Dieu est grâce, Dieu est bienveillance, Dieu est bonté, et non en raison de ce que nous sommes. Parce que si je mets les choses à l'envers, alors à ce moment-là, je ne me trouverai jamais devant Dieu, je ne pourrai jamais avoir ce contact avec Dieu, puisque je me fais Dieu lui-même, Dieu moi-même, ou j'interprète finalement, ou je dénature la pensée de Dieu. N'imitons pas les disciples d'hier qui disaient « Renvoie-les parce qu'elle fait trop de bruit ». Vous savez, connaissez l'histoire que cette femme, la cananéenne qui crie, et les disciples qui n'avaient rien compris à la grâce de Dieu, disaient à Jésus « Mais dis donc, elle nous rompt les oreilles, elle nous casse les pieds, cette femme, elle est en train de crier derrière nous. En plus, c'est une cananéenne, c'est une païenne, on va pas s'occuper d'elle. Ne soyons pas comme ces disciples-là, parce que c'était pas bien ce qu'ils avaient fait. » Ou encore, quand Bartimée, le mendiant aveugle sur la route de Jéricho, s'est levé d'un bond et qu'il criait de tout son cœur en disant « Jésus, fils de David, fais quelque chose pour moi », les disciples et tous ceux qui étaient tout autour disaient « Il le reprenait pour le faire taire ». Mais écoutez, si véritablement, je ne me souviens plus trop du verset, mais vous allez me le rappeler, allez-y. Oui, voilà. Les pierres vont crier finalement de tout cela. Hein. Alors, comprenons bien que j'ai un problème avec mes yeux, hein, je vous le signale, que ce qui fera pousser la porte d'entrée de l'Église, c'est notre façon de vivre la grâce de Dieu et de donner soif et faim de grâce, envie de recueillir sans juger et encore moins de condamner ceux qui s'approchent du Seigneur. Ouais, ceux qui s'approchent du Seigneur. Alors en fait, finalement, j'ai deux problèmes. J'ai mes yeux, j'ai mon écriture. Et là, vous n'êtes pas surpris. Voilà. De ne pas repousser ceux qui veulent venir parce qu'ils sont tellement chargés. Et je crois que le plus bel exemple reste celui-ci, c'est dans Marc, quand ce jeune homme riche est venu vers lui. Il est venu avec une question pathétique, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Alors il va défiler toute la loi, vous comprenez, parce que c'était un homme qui était cadré dans la loi. Et puis Jésus va lui révéler quelque chose, il va lui dire, mais il te manque l'essentiel, il te manque encore une chose. Et ce qui lui manquait, c'était la grâce de Dieu. Et il nous est dit à un moment donné, Jésus le regarda, il l'aima, et il lui dit, eh bien prenons l'exemple de Jésus. Commençons lorsque les gens viennent et qu'ils veulent avoir véritablement voir Jésus comme les Grecs qui étaient venus dans l'évangile de Jean. Montre-nous Jésus, fais-nous voir Jésus. Eh bien que nous commencions à regarder les gens pour ensuite les aimer et après on leur dira, mais pas le contraire. Parce que quelquefois on dit des choses qui sont en dehors de l'amour et en dehors de toute considération parce que nous n'avons pas su regarder la misère des autres. Tout simplement. Tout simplement. Alors, dans la salle du festin, dressons des tables de bienvenue, des tables d'accueil, et non pas des barreaux de tribunaux. Oui, des barres de tribunaux. Certainement pas. Puis une dernière chose, je voudrais simplement vous dire, l'évangile de la grâce de Dieu, et je vous invite à ce que nous nous asseyions à la table dressée, là où le bonheur et la grâce, eh bien, demeureront avec nous tous les jours. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne. Et je n'espère que je n'ai choqué personne à travers ce message. Mais en tous les cas, une chose que je voudrais vous dire, c'est que c'est la grâce qui nous fait vivre. C'est pas la loi. C'est pas la loi. C'est la grâce. Autrement, il n'y aurait pas eu la grâce, il n'y aurait pas eu l'évangile. Si la loi avait été capable de nous sauver, c'est la grâce de Dieu. Alors nous allons bénir le Seigneur ce matin. Prions quelques instants. Seigneur, je veux te rendre grâce et je veux te remercier parce que nous pouvons dire que tu es vivant et que tu nous as rendus vivants, Seigneur, tout simplement, par cette insigne faveur, par cette grâce imméritée, par ce privilège qui descend du ciel et qui vaut que pour nous aujourd'hui, nous pouvons nous approcher et vivre réellement. Seigneur, l'Église, ce n'est pas un lieu de pesanteur, ce n'est pas un lieu de silence, ce n'est pas un lieu de confusion, ce n'est pas un lieu de tristesse. Mais l'Église, Seigneur, eh bien, nous apprend, Seigneur, comme ce petit garçon, à sourire autour de nous et à sourire de bonheur, le bonheur d'être, le bonheur de vivre, le bonheur de connaître Jésus, le bonheur de savoir ta parole, le bonheur de ton esprit, Seigneur, à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cœur, dans notre corps, dans notre vie. Oui, Seigneur, aide-nous, Père éternel, à franchir toutes ces barrières ou à défaire ces liens, Seigneur, ténus, que nous avons acquis, Seigneur, peut-être par une éducation religieuse, par des enseignements, Seigneur, qui sont peut-être des enseignements bibliques, mais qui n'ont rien à voir avec le message vivant, le message extraordinaire de Jésus qu'il est venu apporter, Seigneur, aux hommes, au monde. Oui, Seigneur, merci d'avoir appelé un Matthieu, merci d'avoir appelé un Bartimée, merci d'avoir appelé une Samaritaine, d'avoir, eh bien, amené à toi, eh bien, une Marie-Madeleine, parce que c'était tous ces gens-là, Seigneur, qui ont compris que la grâce de Dieu était leur salut. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Je te prie pour l'Église, je te prie pour nos églises, je te prie pour nos églises dans notre monde, dans notre société occidentale, dans notre pays de France, Seigneur, où il y a encore tellement de pesanteur, tellement de tristesse, tellement de recroquevillement et de repli sur soi. Parce que, Seigneur, nous avons appris ce matin que ce n'est pas en raison de ce que nous sommes, mais c'est en raison de ta nature propre, qui est celle d'aimer, de sauver et de bénir. Et de faire grâce. C'est ça la différence. Je peux m'approcher de toi ce matin, non pas parce que je le mérite, non pas parce que je me sens digne, ça c'est sûr que c'est autre chose, mais Seigneur, je peux m'approcher de toi parce que je sais qu'il y a dans le ciel un Dieu qui aime, un Dieu qui sourit et un Dieu qui bénit. Alors moi je veux participer, je veux être de cette bénédiction pour être transformé et changé et le communiquer aux autres. Merci mon Sauveur. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.